Voyons maintenant un schéma d'intervention pour sortir d'un conflit collectif. Je vais vous présenter une situation de départ. Les délégués du personnel d'une structure font savoir à leur directeur qu'ils exigent le 13e mois et si leur revendication n'est pas satisfaite, ils menacent de se mettre en grève. Et je vais vous présenter un schéma d'une démarche que je préconise pour accompagner des organisations à sortir d'un conflit collectif. Et je présenterai cette démarche à partir du point de départ que je viens d'énoncer. La première étape, désigner le représentant de la direction. Il va s'agir de négocier avec les salariés et la direction doit définir qui est habilité à négocier pour elle et quelles sont les limites de cette habilitation. Plus l'organisation concernée est importante et complexe, plus cette étape est déterminante. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'ai été contacté par le directeur général d'une organisation qui éprouvait des difficultés à sortir d'un conflit collectif avec un groupe de salariés. Et lors de mon entretien avec ce directeur, il m'a expliqué que le conflit durait depuis 4 semaines et qui concernait un groupe d'ouvriers d'un atelier d'une des unités de production. Et lorsque je lui ai demandé qui était intervenu pendant ces 4 semaines pour négocier au nom de la direction, il m'a indiqué les personnes suivantes. Le chef d'atelier, le responsable production de l'unité, le directeur de cette unité, le directeur régional, le directeur du service production du siège, le DRH, son adjoint et lui-même en tant que directeur général. Il y a donc eu 8 personnes qui, à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, sont intervenues dans la négociation pendant ces 4 semaines. Ces interventions, pour la majorité d'entre elles, avaient été faites de la propre initiative des personnes concernées, sans concertation préalable et sans information a posteriori des autres personnes. Ces éléments constituaient à l'évidence l'une des raisons de l'enlisement du conflit. La négociation comprend différentes phases. Une personne peut être habilitée uniquement pour certaines de ces phases. Cette habilitation peut être encadrée dans des limites d'autonomie. Par exemple, une personne peut être habilitée à questionner le personnel pour comprendre précisément quelles sont ses demandes, mais ne pas être autorisée à présenter quelques propositions que ce soit de la part de la direction. Il est très important que les limites d'attribution de chacun soient très clairement définies et soient connues. Elles doivent être connues d'abord de chaque membre de l'équipe de direction, et il est également nécessaire que chacun d'entre eux accepte les délégations données. Cela permet de limiter les interférences. Et ces limites d'attribution doivent être aussi connues des salariés. Et cela est important pour éviter les fantasmes de pouvoir. Et l'origine de ces fantasmes peut être, d'une part, le représentant de la direction qui peut, parfois pour se protéger, parfois aussi pour se sentir considéré et reconnu, laisser croire qu'il a plus de pouvoir que ceux qui lui ont été réellement confiés. Et l'origine des fantasmes peut être aussi les salariés eux-mêmes, qui peuvent aussi affecter, d'eux-mêmes, à leur interlocuteur un pouvoir qui ne correspond pas à la réalité. Et cela peut entraîner des malentendus qui compliquent singulièrement la situation. Par exemple, si des salariés pensent que leur interlocuteur est habilité à mener l'ensemble de la discussion, et que lorsqu'ils lui ont exprimé leur demande, ce dernier répond qu'il doit en référer, les salariés risquent de vivre cette réponse comme un moyen de gagner du temps, comme une manipulation. Étape 2, faire appel à un accompagnateur. La mission de cette personne est d'accompagner les salariés et la direction à dérouler les étapes que je vais décrire après. De mon point de vue, quelles sont les caractéristiques que doit avoir cette personne? La première caractéristique, être neutre. Elle doit impérativement être extérieure au conflit. Elle ne doit avoir aucun enjeu par rapport à ce conflit. Son seul objectif doit être de faciliter la sortie du conflit et d'accompagner les deux parties à mettre en place les éléments de régulation permettant à l'avenir de limiter les risques de blocage. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, cette personne doit être compétente. Et vous pourrez voir dans les étapes suivantes que le processus que je propose est précis et relativement complexe. Il nécessite d'être bien maîtrisé pour être efficace. Et la conduite de ce processus exige aussi une bonne maîtrise des techniques de conduite de réunion et des outils de base de coaching. Pour choisir cette personne, l'entreprise a deux options. D'une part, elle peut faire appel à un consultant extérieur qui intervient directement en conduite du processus. Deuxième option, elle confie ce travail à une personne d'un service fonctionnel. Et souvent, c'est une personne du service ressources humaines. Dans ce cas, je suggère vivement que la personne soit elle-même accompagnée d'un consultant extérieur. Et même dans le cas improbable où l'entreprise peut disposer en interne d'une personne ayant la maîtrise et l'expérience d'une démarche de sortie de conflit, l'intérêt du consultant extérieur est justement dû au fait qu'il est extérieur. Et si vous permettez une métaphore, c'est comme pour le dentiste. Même le praticien le plus compétent ne peut pas se plomber une dent. En effet, dès qu'il ouvre la bouche, il ne voit plus rien. Et de plus, tous ses mouvements sont inversés. Donc la sagesse la plus élémentaire le conduira à aller voir un confrère. Et pourtant, il a la même compétence que lui. Et là, quand je présente, notamment dans le cadre de conférences, ces éléments, j'ai toujours le cri du cœur de l'assistance, en tout cas d'une ou deux personnes de l'assistance, c'est un consultant extérieur, mais c'est au chef d'intervenir. En effet, c'est au patron, au responsable de l'équipe concernée, de tenter d'intervenir, et s'il ne le fait pas personnellement, il se discrédite en tant que leader. Voilà les retours que j'ai très régulièrement. Et en effet, dans toute organisation, lorsqu'un conflit éclate, il est évident pour tous que c'est au chef d'aller au-devant de ses collaborateurs. Et ce dernier tente d'intervenir tout en ayant plusieurs casquettes. Il est le patron, il essaye d'aider les salariés exprimés, il explique, il informe, il anime, il décide, il est le gardien du cadre et il doit garder un œil sur les objectifs généraux de la structure et sur les éléments stratégiques. Je pose une question. Est-ce bien raisonnable? Est-ce que l'on va demander au chef du service comptable d'aller réparer une chaudière pour la raison que celle qui est en panne est justement la chaudière qui chauffe les bureaux du service comptabilité? Voici quelques éléments complémentaires pour étayer ma position. Pourquoi le leader de l'équipe est-il souvent la personne la plus mal placée pour être médiateur dans la gestion d'un conflit qui concerne son équipe? Dans un conflit ouvert, l'ennemi premier du manager est en lui-même. Ce sont sa propre peur et sa propre colère. Elles sont alimentées par les manifestations de la colère de la partie adverse. Et le système peur plus colère fonctionne aussi pour lui. Cela peut le conduire à entrer dans un rapport de force dont l'enjeu ne correspond plus à la réalité, mais devient ne pas céder. Celui qui cède perd la face. Dans ce cas, il y a une confusion entre faire et être. Si je fais une concession, cela voudra dire que je suis faible, que je ne suis pas à la hauteur. Donc, l'enjeu pour la personne devient existentiel. Il s'agit de la vision qu'il a et qu'il pense que les autres ont de sa propre valeur. Or, j'insiste, le rôle du leader n'est pas de résoudre. Je vous renvoie au chef comptable et à la chaudière. Voyons maintenant les raisons de sa propre colère. Cette dernière est liée à un sentiment d'injustice. Le leader peut le ressentir par rapport à ses collaborateurs. Il vit les revendications de ces derniers comme une remise en cause de son travail, voire de lui-même. Et s'il s'est beaucoup investi, il peut développer un fort sentiment d'injustice qui peut le conduire à penser « avec tout ce que j'ai fait pour eux, c'est vraiment injuste ». Il peut ressentir aussi ce sentiment d'injustice vis-à-vis de ses supérieurs. De la même façon, il peut développer du ressentiment contre ces derniers. Et il peut même les rendre responsables de la situation. Et il sera d'autant plus enclin au ressentiment qu'il sait ou qu'il craint qu'eux-mêmes jugent qu'il n'est pas bon manager puisqu'il n'est pas capable de tenir son équipe. En plus de l'implication affective qui est incompatible avec la neutralité que doit avoir la personne qui anime le processus de médiation, il est rare que le leader ait la compétence technique spécifique pour conduire cette démarche complexe. Et même si c'était le cas, il ne peut pas être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du système. Donc, je suggère à nouveau que chacun reste à sa place et assume sa mission avec compétence et détermination. Et si certains patrons se sentent dépossédés de leurs responsabilités par l'intrusion d'un animateur du processus, je leur suggère d'attendre la suite des étapes que je propose et ils verront rapidement qu'ils ont une part déterminante à jouer. Passons maintenant à l'étape 3, aider les personnes à exprimer. Alors, quels sont les objectifs de cette étape ? Il s'agit d'accompagner les personnes à ce que j'appelle déstocker, faire sortir. Les aider à reprendre contact avec la réalité, obtenir des informations et démarrer un processus de coopération. La condition essentielle pour démarrer cette démarche avec un groupe qui est dans l'opposition est de reconnaître à la fois le groupe et les personnes qui le composent. En effet, l'essentiel est de renouer et de reconnaître. Ce sont les deux premières actions indispensables. Et il y a un moyen très simple et très efficace pour à la fois renouer et reconnaître, c'est écouter. Alors, quelle modalité est-ce que je propose ? Lorsqu'un groupe en vient à une situation qui comporte un risque réel de grève, il y a une forte probabilité pour que la colère et la peur soient très présentes. Nous avons vu que l'un des éléments qui décuple ces sentiments est la perception de flou, d'incertitude. De plus, ces sentiments, lorsqu'ils sont ressentis fortement et collectivement, ont tendance à générer un stress fort qui va renforcer la confusion. Pour aider chacun à conserver ou à restaurer une disposition d'esprit favorable à la coopération, il est important de permettre aux personnes concernées de clarifier leur esprit. Or, dans leur esprit, il peut y avoir plusieurs éléments. Il peut y avoir des faits. Ce sont des éléments d'expression de la réalité. Par exemple, la pause déjeuner a été réduite de 60 à 50 minutes. Ça, c'est un fait. Il peut y avoir des analyses. Ce sont des réflexions sur la vision que la personne a de la réalité. Je pense qu'il est préférable de conserver une pause déjeuner de 60 minutes qui permet un réel temps de repos sans stress. Ça, c'est une analyse. Il y a aussi des interprétations. Il s'agit de déductions faites à partir d'un élément de la réalité. Par exemple, je suis sûr que cette idée vient du chef d'atelier. De toute façon, il n'a jamais pu nous sentir. Et il y a un quatrième élément qui peut être interne à la personne, c'est l'expression de sentiment. La personne peut dire « j'ai peur que cela soit le début d'une remise en cause de nos acquis ». Et la personne qui gère l'étape de l'expression doit connaître précisément la différence entre chacun de ces éléments et être capable d'aider les personnes à faire le tri. Alors un moyen concret, provoquer une réunion de l'ensemble du personnel. Alors, si cela représente un nombre de personnes supérieur à 20, il s'agit de mettre en place la démarche par service, par équipe ou par unité. Alors, je vais vous présenter une chronologie des étapes que je suggère vivement à l'animateur de suivre. Il s'agit d'un schéma qui après est à adapter en fonction des particularités. Mais globalement, les éléments de ce schéma peuvent s'adapter à beaucoup de situations. Première chose, se présenter, présenter le cadre de son intervention. Si l'animateur n'est pas connu de chaque participant, il doit se présenter. Puis il est important qu'il dise précisément la mission qui est la sienne et la vision qu'il a de son rôle et des limites de son intervention. Deuxièmement, présenter ce qu'il sait de la situation. Cette présentation doit être brève et neutre. Par exemple, vous rencontrez actuellement des problèmes et vous avez des demandes à formuler à la direction. Troisièmement, proposer les objectifs de la réunion, à savoir permettre à chacun de pouvoir s'exprimer sur la situation actuelle et sur les problèmes qu'il rencontre. 4. Proposer des règles de fonctionnement. Les règles sont à élaborer en fonction de la situation. Cependant, certaines d'entre elles me paraissent incontournables. Pour chacune, je suggère de la nommer et d'en expliquer la raison. Voici trois règles qui me paraissent incontournables. La première, c'est une règle de bienveillance qui est ne pas interrompre une personne qui s'exprime, sauf pour lui demander de préciser ou d'expliquer ce qu'elle dit. La raison, chacun a le droit au respect des autres et la première marque de respect est d'écouter une personne lorsqu'elle parle. Règle 2, pas d'agression verbale ni physique de la personne pendant ou après la réunion. La raison, chacun doit pouvoir s'exprimer librement sans crainte de retomber. Et lorsque deux personnes ne pensent pas la même chose, cela ne veut pas dire que l'une d'entre elles est automatiquement un abruti. C'est simplement qu'elles n'ont pas la même vision et donc pas le même point de vue. Règle 3, une stricte confidentialité concernant les personnes. Cela veut dire que les propos tenus peuvent être rapportés à l'extérieur du groupe, mais que chacun s'engage à ne pas dire qui en est l'auteur. Il est important que l'animateur précise que cette règle s'applique aussi à lui et qu'il fera un compte-rendu à la direction générale des informations qu'il vient de recueillir, mais qu'il veillera à ce que les personnes ne puissent pas être identifiées. La raison ? L'objectif de l'ensemble de la démarche est de renouer le dialogue et d'assainir la situation. Or, pour cela, il y a des précautions à prendre. L'une d'elles est « on ne dit pas qui a dit quoi ». Celui qui a quelque chose à dire à quelqu'un doit lui dire directement sans intermédiaire. Et ce n'est pas à un intermédiaire de prendre l'initiative d'aller raconter ce que pense une autre personne. Étape 5, demander l'accord de chaque membre du groupe. Cet accord est à demander sur 3 points. Chaque personne accepte-t-elle la personne mandatée comme animateur de la réunion? Est-ce qu'elle la valide? 2, les objectifs proposés pour cette réunion. 3, les règles de fonctionnement. Et au préalable, il s'agit, avant de demander aux gens s'ils sont d'accord, de leur demander s'ils ont des réactions, des remarques, des suggestions sur l'un de ces 3 points. Cette étape me paraît très importante. Et même si elle peut paraître un peu formaliste, notamment avec un groupe manifestant peu d'agressivité, voire bon enfant, je suggère de la dérouler précisément comme elle est présentée. Parce que je considère qu'elle a des avantages. D'abord, cette démarche est respectueuse des personnes puisque l'animateur propose et le groupe décide. Cela limite le risque de pousser des personnes à avoir un comportement rebelle avec l'animateur. Le fait de savoir que l'on peut dire non permet d'accepter de dire oui. Le fait que l'animateur et son rôle soient validés par le groupe lui donne une réelle légitimité. En effet, il devient mandaté par les deux parties sur une mission précise. Son rôle est clairement accepté par tous. Et le fait de clarifier l'objectif de la réunion et de convenir ensemble de règles de fonctionnement est une façon de construire un cadre. Et le fait que les participants puissent influer sur le cadre est pour eux une permission. Or, le cadre lui-même constitue une protection pour chacun. Et nous retrouvons la formule « permission plus protection égale puissance ». Cela veut dire que pour qu'une personne ou un groupe soit efficace, il doit avoir à la fois permission et protection. Et c'est ce qu'obtient ce groupe. Un autre avantage déterminant, rappelons-nous qu'un groupe qui exprime de l'agressivité est un groupe qui éprouve de la colère, mais aussi de la peur. Et l'un des premiers éléments de nature à aider des personnes qui ont peur à se rassurer est de bénéficier d'un cadre protecteur. Les règles, les normes, lorsqu'elles sont comprises et acceptées, sont vécues comme protectrices et rassurantes. Donc ce travail d'élaboration en commun des règles de fonctionnement est de nature à diminuer la peur des membres du groupe. Enfin, l'élément qui me paraît le plus important, l'explication de chaque règle fait référence de façon explicite à des valeurs de tolérance, de respect des personnes. Et le fait que l'animateur mette d'emblée ces valeurs au centre du travail du groupe est de nature à influer positivement sur l'ensemble de la suite du dispositif. Sixième élément de cette étape, accompagner les membres du groupe à s'exprimer. Si le groupe éprouve des sentiments de peur et de colère très forts, il est nécessaire de lui permettre d'abord de déstocker. Donc la phase 6 se structure alors en deux sous-étapes. La première qui est exprimée, la deuxième qui est triée. Voyons déjà la première, exprimée. Il s'agit de conduire les personnes à s'exprimer, même de façon inorganisée, de leur permettre de faire diminuer la pression par l'expression. Et dans cette situation, l'animateur ne doit pas tenter de canaliser ou d'organiser l'expression. En effet, toute tentative de sa part en la matière peut être vécue par le groupe comme une opposition. Alors, quel est le rôle spécifique de l'animateur dans cette situation? D'abord, c'est écouter. Donc il doit s'interdire toute question tant que les personnes parlent spontanément. La seule question possible est « Je ne comprends pas ce que vous dites, pourriez-vous m'expliquer ?» Cette question est aussi de la part de l'animateur une marque concrète de son intérêt et de sa volonté de comprendre. Deuxième chose, c'est inciter chacun à parler. L'animateur doit inciter chacun à s'exprimer, notamment les personnes qui auraient tendance à rester en retrait. Cela permet de limiter les risques de l'effet bombe à retardement. Il s'agit de la personne qui se charge en colère au fur et à mesure que les autres expriment la leur et qui explose de façon imprévisible. Troisième élément, reformuler. Il s'agit de dire à la personne « voilà ce que j'ai compris de ce que vous avez dit » et de dire ce que vous avez compris avec vos propres mots et de demander à la personne de vérifier que vous avez effectivement compris le sens de ce qu'elle souhaite exprimer. J'insiste sur cette dernière action, reformuler. Cette technique est très efficace. Elle permet d'abord à l'animateur de vérifier qu'il a bien compris, aux autres membres du groupe de faire de même, donc de limiter les risques de malentendus, et elle permet aussi à la personne qui s'est exprimée de pouvoir éventuellement compléter ou rectifier ses propos. Et pour cette dernière, cela a un avantage supplémentaire. Si la personne a eu des propos très extrêmes, voire brutaux, le fait de les entendre reformuler par l'animateur est de nature à l'aider à se rendre compte du côté exagéré de ces derniers. Et cela peut la conduire facilement, en douceur, à les relativiser immédiatement d'elle-même. Par exemple, pour tous les chefs, nous ne sommes que des machines. Nous, on n'est vraiment pas traités comme des êtres humains. Reformulation. Ce que je comprends, c'est qu'aucun de vos supérieurs n'a de considération pour vous. C'est bien ça ? Enfin, c'est peut-être un peu exagéré. Ils sont pas tous pareils. Et là, vous voyez, on est déjà dans une relativisation et on est déjà dans un retour, un atterrissage, si je puis dire, sur la réalité. Et à ce stade, la coopération avec l'animateur est suffisamment construite pour que ce dernier puisse influer sur le processus et donc commencer à guider le groupe. Et il peut donc passer à la phase suivante, qui est la 6B, trier, approfondir. Et je propose d'abord qu'il forme les participants. Donc en préalable à l'approfondissement des informations, je suggère que l'animateur propose au groupe de lui présenter des éléments permettant de faire la distinction justement entre les faits, les analyses, les interprétations et les sentiments. Et j'ai observé que cette proposition est souvent bien accueillie par le groupe car elle permet, si je puis dire, de souffler un peu par rapport à l'étape précédente qui est souvent très chargée en émotions. Et cela permet de commencer à construire. Et en l'occurrence, il s'agit de construire des éléments d'un cadre de référence commun. Et de plus, l'animateur se trouve à ce moment-là en position de donner, ce qui est de nature à consolider son alliance avec le groupe. Donc l'animateur, à ce stade, est en train d'accompagner les participants à trier et approfondir l'expression de ce qu'ils ont à dire. Après avoir formé les participants, je suggère qu'il entame un travail qui est de les accompagner à préciser leurs propos. Et je propose un questionnement structuré, qui est d'abord de demander aux personnes quels sont les faits, puis quel est le problème, et quels sont les autres problèmes. En effet, il est important que la personne puisse dire le problème sur lequel elle cristallise, mais aussi s'il n'y a pas d'autres problèmes qui peuvent être attachés au premier ou masqués derrière celui-là. Une fois que la personne a identifié et a exprimé des problèmes, c'est en quoi est-ce que cela est un problème ? Puis, une autre question, c'est ce que j'appelle quel a été le scénario, c'est-à-dire l'historique de la montée en puissance du malaise. Et le fait d'avoir des indications précises sur cet historique permet d'identifier d'abord quelle était l'origine du problème, quel a été l'élément qui était à l'origine. Et un conflit peut naître d'un événement qui est passé totalement inaperçu aux yeux de la direction. Par exemple, lors d'un déménagement interne à un site, la direction a informé officiellement l'ensemble des salariés concernés et a oublié le personnel de maintenance. Et donc, c'est parti de là, je vais dire. Après, c'est les éléments qui sont venus renforcer progressivement le problème. Est-ce qu'il y a eu des comportements éventuellement inappropriés de l'encadrement ? Par exemple, lorsque le chef d'équipe maintenance est allé voir le directeur technique, en lui demandant ce qui se passait, ce dernier, plutôt que de reconnaître cet oubli, lui a répondu sèchement qu'il aurait les consignes en temps voulu. Donc là, il s'agit de comportements renforçants. Est-ce qu'il y a aussi des personnes ou des structures qui ont joué un rôle d'amplificateur ? Donc ça, c'est les éléments qui, à un moment, sont venus renforcer progressivement le malaise. Autre élément diagnostique, c'est tenter d'identifier ce que j'appelle les signaux d'alerte émis pendant l'historique. Les ouvriers de production, par exemple, ont dit plusieurs fois à leur chef d'équipe que la pression est en train de monter au service maintenance. Donc là, il y a eu des signaux d'alerte qui ont été émis. Et un autre élément diagnostique, c'est les modalités et le traitement de ces signaux. Imaginons que le responsable maintenance, paniqué à l'idée que le directeur technique puisse ne pas apprécier les remous, on va dire, a changé de sujet de conversation. Imaginons que les chefs d'équipe production ont considéré, par égard pour leurs collègues maintenance, que ce n'était pas à eux d'en parler. Et donc l'affaire a été étouffée. Les signaux d'alarme n'ont pas été pris en compte. Et puis un autre élément aussi à creuser, c'est le préjudice que les personnes perçoivent. Quels sont les avantages de cette démarche? D'abord, ça permet d'aller au fond des choses. En effet, si une demande est latente, et si vous ne provoquez pas son expression, vous pouvez faire confiance aux salariés pour savoir la ressortir tôt ou tard. Notre avantage, c'est limiter les demandes en cascade. Une négociation globale sur l'ensemble des problèmes rencontrés limite les effets de demandes en cascade et de surenchères dans les mois à venir. Un autre avantage, c'est que vous vous retrouvez avec une liste de demandes qui permet d'identifier les demandes qui sont les plus simples à satisfaire. Ça permet aussi d'identifier ce que j'appelle les jusque-boutistes, c'est-à-dire ce sont des personnes qui veulent tout, tout de suite, sans se préoccuper de ce qui est réaliste. Et ça permet aussi de faire entendre les éléments modérateurs. Ça peut permettre, dans le cadre de la réunion, à des personnes qui sont plus réalistes, de pouvoir exprimer aussi leur point de vue. Dans cette réunion, il est important, lorsqu'une personne s'exprime et qu'elle dit « on » ou qu'elle dit « nous », de lui faire préciser de quoi il s'agit. Par exemple, si une personne dit « nous pensons que », l'animateur doit demander systématiquement à la personne de préciser de qui il s'agit. Et la réunion de l'ensemble du personnel est l'occasion de demander à chacun de prendre position et de le faire devant les autres. Et cela permet aussi d'éviter que le délégué du personnel fasse écran. Si l'animateur ou la direction n'a de contact qu'avec le délégué du personnel, il peut faire écran et il y a risque de manipulation. Il y a aussi un risque de manipulation de la part de certains membres de l'équipe. Notamment par une personne qui, lorsqu'elle est en tête-à-tête avec la direction, explique qu'elle comprend tout à fait sa position et qu'elle la soutient, et qui, lorsqu'elle est avec les autres membres du personnel, peut avoir une attitude totalement opposée. Et ça permet aussi, autre avantage, de limiter l'effet de bloc. C'est-à-dire, lorsque la direction négocie uniquement avec une personne censée représenter l'ensemble du personnel, elle peut avoir l'impression qu'elle a face à elle un bloc soudé, uni, inattaquable. Or, ce n'est jamais le cas. Et l'un des objectifs de cette réunion est de mettre au point, ensemble, un plan d'amélioration dont les actions peuvent être programmées sur une, voire plusieurs années. Passons maintenant à l'étape 4, qui est aider le groupe à analyser. Il s'agit donc d'un travail de décodage. L'objectif de ce travail est d'identifier les besoins non satisfaits ou mal satisfaits. Alors ça me conduit à vous présenter un élément qui me paraît tout à fait essentiel. C'est la différence entre le besoin et la demande. Quand on demande à un individu ou à un groupe quels sont ses besoins, ce qu'il répond, c'est sa demande. La définition que je fais est la suivante. Ma demande est l'expression consciente que je fais des besoins que je pense avoir. Donc cette expression vient de l'analyse que je fais sur les besoins que j'ai. Or il y a un risque réel à ce que le besoin ne corresponde pas à la demande exprimée. Par exemple, l'analyse de la part de la personne peut être incomplète, et donc certains besoins restent inconscients ou non exprimés. Une autre possibilité, c'est une analyse erronée. Donc là, l'expression des besoins ne correspond pas aux besoins réels. Je vais vous donner un exemple. Imaginons la demande d'un groupe qui est changer d'ordinateur. C'est une demande qui a été faite dans un groupe que j'accompagnais. Et en accompagnant le groupe à préciser son besoin, nous nous sommes rapidement aperçus ensemble que le problème n'était pas lié réellement à un besoin de nouvel ordinateur. En fait, il s'agissait d'un service appartenant au siège social d'une grande entreprise, et tous les autres services avaient été dotés récemment de nouveaux ordinateurs, sauf eux. Et ils avaient vécu cela comme un manque de considération. Et donc, derrière la demande de nouveau matériel se cachait un besoin d'être considéré de la part de la direction. Je vous donne un autre exemple. J'accompagnais le DRH d'une structure qui était confrontée à un problème dont il ne comprenait pas l'origine. Certains salariés de l'entreprise avaient une revendication qui devenait extrêmement pressante d'un changement d'indice. Et ce DRH m'expliquait qu'il ne comprenait pas l'obstination, la fixation que ces personnes faisaient sur cette demande. En effet, ce changement d'indice ne leur apportait qu'une augmentation de salaire tout à fait dérisoire. J'ai fait l'hypothèse que, au-delà de cette demande, il y avait un besoin de reconnaissance, et que ces personnes avaient trouvé ce moyen socialement admis pour demander la reconnaissance de leur supérieur. Donc, lorsqu'un groupe exprime une demande, il y a toujours un risque qu'elle ne corresponde pas à son besoin. Et je vais vous présenter des éléments qui renforcent ce risque. Le premier élément, c'est le porte-parole. Lorsqu'un groupe est en conflit, nous avons vu précédemment que peut apparaître un porte-parole de ce groupe. Si une personne est porte-parole du groupe, elle va devoir consolider ou préserver la cohésion du groupe qu'elle représente. Cette cohésion est l'élément déterminant de la puissance du groupe. Pour cela, elle va devoir trouver ce que j'appelle un thème fédérateur. Ce thème fédérateur est l'expression de la revendication du groupe. Et pour qu'il soit fédérateur, il doit avoir un certain nombre de caractéristiques. D'abord, il doit être un dénominateur commun à tous. Deuxièmement, il doit être facile à comprendre. Troisièmement, il doit être facile à exprimer, d'une part auprès du groupe concerné et aussi auprès de la direction. Et un excellent thème fédérateur doit pouvoir faire un excellent slogan. Et dans une manifestation, ce slogan devra pouvoir être scandé, si possible même en musique. Il y a un thème fédérateur relativement ancien, mais qui a facilement traversé les siècles pour venir jusqu'à nous, c'est le « Ah, ça ira, ça ira ». Une autre caractéristique que doit avoir le thème fédérateur, c'est qu'il doit être socialement admis. Et il est plus facile de demander un 13e mois que de dire que nous avons l'impression de ne pas être aimés. Il y a donc un risque certain que le porte-parole, même en toute bonne foi, fasse écran et fasse des demandes qui ne correspondent pas ou pas complètement aux besoins réels du groupe. Et il y a un risque supplémentaire lorsque le porte-parole est délégué syndical. Parce qu'en plus des éléments décrits ci-dessus, le délégué syndical peut aussi devoir prendre en compte les orientations stratégiques de son organisation. Il peut donc être incité à les traduire sur le terrain, même si elles ne reflètent pas exactement les besoins prioritaires des salariés concernés. Or le problème est le suivant, c'est que si l'on apporte satisfaction à un besoin important et si l'on rate un besoin essentiel, il y a un risque majeur de conflit à venir. Étape 5, accompagner la direction à définir sa position. Dans cette étape, la personne chargée d'accompagner les deux parties doit aider la direction à analyser les éléments qu'elle a collectés dans les étapes précédentes. Voici les trois éléments principaux à analyser. D'une part, les faits. Lorsque l'accompagnateur va présenter l'ensemble des faits qui sont connus des salariés, ces faits entraînent trois types de réactions de la part de la direction. D'une part, découvrir. Même si la direction connaît particulièrement bien la structure, il est certain qu'elle va découvrir des informations, des faits, qui s'avéreront exactes et dont elle n'avait pas connaissance. Deuxième élément, valider. D'autres faits étaient connus de la direction et seront donc validés par elle. Troisième élément, détecter les informations manquantes. La direction pourra donc identifier des informations qu'elle possède et dont les salariés n'ont pas connaissance. J'ai constaté que ce travail d'analyse était parfois une véritable révélation pour la direction, qui, disposant de ces informations, est souvent beaucoup plus en mesure de comprendre certaines réactions de salariés. Deuxième élément que la direction va devoir analyser, c'est les analyses faites par le groupe de salariés. Il s'agit d'utiliser la même démarche que précédemment, mais non plus sur les faits que le groupe a exposés à l'animateur, mais sur les analyses et les conclusions que les personnes ont tirées des faits. Et comme pour les faits, ces analyses peuvent être ventilées en trois catégories différentes. Les analyses que découvre la direction. Cette dernière n'avait pas pensé que le groupe puisse avoir tiré de telles analyses ou de telles conclusions sur un fait particulier. Les analyses que la direction valide car elle a les mêmes. Et les analyses qui sont divergentes. Troisième élément à analyser, c'est les demandes du groupe. Et la direction doit définir sa position par rapport aux demandes exprimées par les salariés. Et de mon point de vue, les critères à prendre en compte pour faire cette analyse, c'est les valeurs de la direction, les objectifs spécifiques de la structure, l'environnement de la structure et la situation de la structure. Et si nous reprenons l'exemple d'une demande d'un 13e mois, à ce moment-là, il y a trois questions essentielles pour résumer ces interrogations. Lorsque la direction examine cette demande, les questions qu'elle doit se poser, c'est « Cette demande lui semble-t-elle fondée ?» Quand elle examine la qualité du travail fourni par le personnel, considère-t-elle qu'une augmentation de rémunération serait légitime ? Deuxième question, la demande est-elle réaliste ? Le compte d'exploitation de la structure est-il en mesure d'assumer une charge liée à une augmentation de la masse salariale ? Troisième question, cette demande est-elle conforme aux objectifs ? Tout en étant en mesure de pouvoir accepter des augmentations de salaire, elle peut éventuellement considérer qu'elle préfère les attribuer aux personnes qui lui paraissent les plus investies et les plus efficaces, et donc ne pas faire une augmentation uniforme et généralisée. À la fin de cette étape, la direction doit avoir listé les demandes qu'elle retient. Puis, il s'agit de travailler d'abord sur les demandes retenues. Passons à l'étape 6, la définition des objectifs. Donc, certaines demandes ont été retenues. Il s'agit à ce moment-là d'accompagner la direction à traduire ces demandes en objectifs d'amélioration. Par exemple, si la direction a retenu une demande des salariés d'être associés à la réorganisation de leur service, cette demande peut devenir l'objectif suivant, associer les salariés à la réorganisation du service. Les objectifs doivent être exprimés d'une façon positive. Donc, la demande de ne plus être tenue à l'écart des informations concernant la structure peut être transformée en l'objectif suivant, permettre aux salariés d'avoir des informations sur le fonctionnement de la structure. Passons maintenant à l'étape 7, élaborer. Alors là, je voudrais attirer votre attention sur un danger qui est très présent et qui guette fréquemment la direction quand on en arrive à ce stade-là. Nous avons vu précédemment que le leader a très souvent le réflexe, lorsqu'un conflit se déclare, d'immédiatement se porter à la rencontre des personnes pour tenter de le gérer. De la même façon, lorsque les demandes sont faites de la part de salariés et que ces demandes sont considérées comme légitimes par leur patron, ce dernier se croit très souvent tenu d'être celui qui devra trouver le moyen de les satisfaire. Et cette attitude, de mon point de vue, est aussi inadaptée que la précédente. Je vous donne un exemple. Je travaillais avec un chef d'atelier sur des difficultés qu'il rencontrait avec son équipe. Et il m'expliquait que quelques semaines auparavant, les ouvriers avaient exprimé leur mécontentement parce que l'atelier était mal éclairé et que cela entraînait une fatigue accrue et des erreurs. Je lui demandais s'il considérait cette demande comme valide. Il me répondit positivement et il ajouta « J'ai obtenu de la part de la direction de l'unité l'autorisation de faire les travaux nécessaires. » Et j'ai donc changé tout l'éclairage pour en mettre un plus puissant et mieux adapté. Et moins d'une semaine après cette installation, j'ai eu à nouveau des plaintes d'ouvriers qui trouvaient que ce nouvel éclairage était mal positionné, trop violent à certains endroits. Et je lui demandais alors quelle avait été sa réaction. Et il me répondit « J'étais furieux. Avec tout ce que j'avais fait pour eux, je ne m'attendais pas à ce qu'ils me remercient par des caprices. » Voici un exemple typique de comportement parental inadapté où le chef, voulant prendre soin de ses collaborateurs, trouvent les solutions à leur place. Et dans la mesure où il les traite comme des enfants en bas âge, il n'est pas surprenant qu'il obtienne une réaction de ce niveau. Et pour limiter ces risques, je suggère de prendre en compte de façon précise les éléments que je vais vous présenter maintenant. D'abord l'objectif. Il s'agit de déterminer les modalités de la co-construction des réponses aux besoins identifiés. Ces modalités sont déterminées par un travail en commun avec les représentants de la direction et des salariés. Et les modalités précises sont les suivantes. 1. Le représentant de la direction, le leader, présente le cadre et les objectifs qui ont été retenus. Et dans ce cadre, les salariés concernés déterminent ensemble comment ils vont conduire le projet d'amélioration. Et donc, ce sont les salariés concernés qui, partant des objectifs définis par la direction et des contraintes que la direction présente, notamment par exemple en termes budgétaires, vont réfléchir à proposer des options permettant d'atteindre l'objectif. Passons maintenant à l'étape 8, concrétiser. Là, il s'agit de mettre par écrit, d'une part, les modalités de réalisation. Donc, pour chaque action retenue, il est important d'écrire quoi, qui, comment, quand ou combien, c'est-à-dire comment concrètement le plan d'action va être mis en œuvre, et d'autre part, les modalités de suivi et d'ajustement. Et il reste une 9e étape qui est de suivre. Il est nécessaire de donner aux salariés les éléments pour qu'ils puissent eux-mêmes vérifier que l'accord est respecté. Par exemple, si l'accord prévoit une prime sur objectif atteint, la direction doit régulièrement donner l'ensemble des chiffres qui permettent à ses collaborateurs de valider les calculs. Et cette étape est surtout l'occasion d'un dialogue régulier qui, avec un management cohérent, le meilleur vaccin, si je puis dire, contre tout déclenchement de conflits collectifs ultérieurs.